Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission du jeudi. L'invité du jeudi, aujourd'hui, nous allons recevoir Florence Roche pour son dernier roman, Les Rescapés de Junas. On va la retrouver dans quelques instants aux presses de la cité. Florence Roche, Les Rescapés de Junas.
Just a jackknife as Mac he did.
Voilà, et eh bien, comme chose promise, chose due, on va parler aujourd'hui dans avec notre invitée du jeudi, Florence Roche, de son dernier roman, Les Rescapés de Junas. Florence, bonjour.
Bonjour.
Oui. Alors, Florence, on va parler de ton dernier roman. Alors, je ne sais plus, j'ai même pas compté, mais tu en es à un certain nombre, même un nombre certain.
Oui, une grosse vingtaine, on va dire.
Ouais, donc c'est pas mal. Donc après La Vengeance du Petit Bagnard en 2022, ben là, c'est Les Rescapés de Junas. Alors on va voir que ben, c'est encore une intrigue qui va être assez compliquée, hein, puisque pour résumer un peu, puis après on va en parler plus en détail. On est chez les Jacquard qui sont dans une grande lignée de fabricants d'eau en bouteille. Et Mathilde sera la première femme à diriger l'entreprise, brillante, moderne. La jeune chimiste doit beaucoup à la complicité qui la lie à son grand-père. Elle n'a pas connu Paul, son père, mort d'un accident. L'année de sa naissance, le jour des funérailles de sa grand-mère, Mathilde se voit remettre un médaillon trouvé dans les ruines de Junas. C'est un village ardéchois. Près de Privas, elle découvre stupéfaite à l'intérieur du bijou des photos de Paul et d'une inconnue. Elle apprend que les habitants de Junas ont tous péri le 15 juin 1955 d'une fièvre inconnue. Elle décide aussitôt de faire toute la lumière sur la disparition de son père et sur le tragique sort du village maudit. Ben, ça nous promet une belle intrigue, hein, n'est-ce pas? Tout d'abord, ce village de Junas existe ou tu l'as...
Alors, il y a un village qui s'appelle Junas et qui est dans le Gard.
D'accord.
Mais en l'occurrence, je ne le savais pas. Et moi, mon Junas à moi, il est plutôt en Haute-Ardèche, dans l'Ardèche, on va dire, protestante. Et donc, il est inexistant. Je l'ai créé toute pièce hein, pour le roman, puisque c'est un village complètement en ruine, en fait, qui n'est plus habité, puisque tous les habitants sont morts. Sauf un livreur de vin qui n'était pas là et qui est arrivé quand tout le monde était absolument mort, sauf son petit-fils. C'est-à-dire que sa fille venait de donner naissance à un bébé. Le bébé n'a pas été contaminé et donc le livreur de vin a tout de suite pris le bébé et a disparu et est allé s'installer à Privas, complètement traumatisé d'avoir vu tout le village mort, empoisonné, enfin... Ça a été quelque chose de catastrophique et les autorités n'ont fait aucune recherche et ont enterré tout le monde dans un espèce de charnier et plus personne n'est monté dans ce village maudit.
Ok, donc ça c'est le début de l'histoire. Alors tu nous parles de fabricants d'eau en bouteille, il y a une source près de Junas.
Oui, alors en fait les Jacquard, la famille donc de Mathilde, à la base ils sont auvergnats. Sa famille a fait fortune dans les eaux minérales, on va dire, à la fin du 19e siècle. Et puis après, ils se sont installés à Vincennes et ils ont continué à produire de l'eau, mais depuis des laboratoires où ils trafiquaient l'eau en y mettant des bulles, des parfums, etc. etc. Donc, la source qui coule à Junas, dans le village où tout le monde est mort, n'a rien à voir avec l'eau que fabriquent les Jacquard. Mais en revanche... Mathilde, qui va se rendre sur les lieux parce qu'elle veut comprendre pourquoi sont morts tous ces gens, elle se rend compte effectivement qu'il y a une source qui alimentait absolument et tous les habitants et puis tous les animaux aussi, de fait, tous les troupeaux et tout ça. Il y a une source commune à tout le village et tout de suite, elle pense que c'est certainement cette eau qui a été contaminée par une bactérie et qui aurait pu tuer tous les habitants, puisque tous les habitants ont touché forcément au but de l'eau dans cette fameuse soirée du 15 juin 55.
Oui, alors bon, mais alors si les habitants sont morts, est-ce que les animaux sont morts aussi?
Oui.
Ah, tout le monde est mort là.
Voilà, c'est pour ça qu'elle comprend, comme elle est en fait formée en science, elle, puisqu'elle travaille toujours sur les eaux. Elle comprend assez rapidement que le seul vecteur, en fait, ça puisse être l'eau, parce que elle a envisagé le fait que ce soit une fièvre, ce qu'ont cru les gens à l'époque. C'est pour ça qu'ils se sont débarrassés tout de suite des corps. Mais non, c'est pas possible, parce qu'une fièvre, il y aurait eu des survivants, ça aurait pas touché les bêtes. Elle a pensé peut-être au pain, à la farine et tout ça, mais c'est pas le cas, parce que là aussi, il y aurait eu des rescapés. Tout le monde ne, voilà. Elle réfléchit, et puis vraiment, et elle réfléchit avec la complicité de Pierre, qui est en fait l'enfant qui a survécu, hein, l'enfant de ce livreur de vin, enfin le petit-fils plutôt, qui lui-même est devenu médecin et qui veut savoir effectivement lui aussi ce qui s'est passé, parce que de fait ses parents sont morts la nuit du 15 juin 1955. Donc elle est épaulée par Pierre, et tous les deux finissent par obtenir l'autorisation d'ouvrir en fait la fosse commune. Pour essayer de compter les corps. Et lui, Pierre, qui est médecin, il dit on va essayer peut-être de voir si on retrouve des bijoux, quelque chose qui pourrait les aider à comprendre ce qui a contaminé l'eau.
Alors bon, on parle du papa de Mathilde, donc puisqu'elle trouve sur des photos de Paul, donc son papa qu'elle n'a pas connu, et d'une inconnue, là aussi c'est un mystère. Est-ce que savoir, on peut pas trop le dire, mais est-ce qu'il pourrait y avoir une relation avec cette catastrophe?
Il était en fait à Junas, le père de Mathilde, il était à Junas. Elle en acquiert la certitude. Il était à Junas avec une très belle inconnue qui l'a rejointe en fait, dont il était très très amoureux, et il avait quitté Paris en fait l'année de la naissance de Mathilde pour la rejoindre, et il était à Junas la nuit fatidique. Et elle en a la preuve, parce que dans la fosse elle retrouve sa montre, elle retrouve aussi des bijoux ayant appartenu donc à Claire, c'est-à-dire à cette femme que son père avait suivie en abandonnant absolument tout à Vincennes. Donc ce qu'elle comprend pas, c'est pourquoi en fait son grand-père et sa mère lui disent que son père est mort dans le laboratoire de la chimie où il fabrique les eaux à Vincennes, alors que elle comprend qu'en fait il avait tout planté à Vincennes en 1955 pour rejoindre cette Claire à Junas avec laquelle il vivait. Elle en est quasiment certaine, puisqu'elle a retrouvé ses effets, des photos et puis des bijoux. Voilà, elle en est certaine.
D'accord, oui, donc ça complique un peu plus l'histoire, hein, parce qu'il va falloir chercher. Il n'y a pas d'évidence, puisqu'il n'y a aucun survivant, si ce n'est ce marchand et son petit-fils. Du moins, son petit-fils.
Ouais. Voilà, et c'est par le biais, en fait, du marchand de vin, et puis parce qu'elle fait aussi des recherches, qu'elle va comprendre la vérité. C'est surtout que Mathilde va rester un certain temps donc en Ardèche pour essayer de comprendre toutes ces démêlées et tout. Et en fait, quand elle rentre à Paris, son grand-père et sa mère ne lui avouent pas la vérité, c'est-à-dire qu'ils continuent à dire que son père était bien à Paris quand elle est née, et qu'il est bien mort dans le laboratoire. Ils nient tous les deux, enfin voilà, ils ne veulent pas lui dire la vérité. Et petit à petit, les Jacquard, donc qui avaient vraiment le monopole sur la vente des eaux, se font doubler par une famille venue des États-Unis, les Douglas, qui eux vont se mettre aussi à commercialiser des eaux qui s'appellent les eaux claires, comme par hasard. Et Mathilde, elle va devoir se battre pour reconquérir des marchés, et puis elle va rencontrer donc le commercial qui est le fils des patrons de ces nouvelles eaux Douglas. Et à partir de là, elle va découvrir toute la vérité, qui est absolument autre de tout ce qu'elle avait envisagé à Junas. Après, on ne peut pas dire en fait, mais la fin est complètement à double rebondissement, et on comprend qu'elle s'est plantée sur toute la ligne, et on comprend ce qui s'est vraiment passé, quoi, pour son père et pour la fameuse Claire en fait.
Oui, et donc, ce qui est intriguant quand même, c'est que les grands-parents gardent le secret. Mais ça se faisait beaucoup dans les familles, hein, avant.
Oui, bien sûr.
Il y avait des secrets de famille qu'on ne voulait pas révéler, quoi.
Tout à fait, oui.
Et donc, c'est le cas pour Mathilde, là.
Mais c'est le cas pour Mathilde, oui, parce qu'ils ne peuvent pas, ils peuvent pas lui dire la vérité. Enfin, son grand-père ne peut pas lui dire la vérité, parce que la vérité, elle est très dure à entendre, parce que le grand-père, en fait, il est fautif dans le fait que le père de Mathilde soit parti à Junas, en fait.
Voilà, on comprend pourquoi, enfin, on va comprendre pourquoi le père de Mathilde est parti, lui, à Junas, à
C'est
travers
ça,
ce
ouais.
secret. Alors, est-ce que cette famille Douglas, des Américains qui arrivent en France, est-ce qu'ils arrivent par hasard ou pas tout à fait par hasard?
Ben bien sûr que non, en fait. Et c'est là justement toute la lumière qui va être faite, en fait. Et par rapport à l'histoire de cette famille Douglas, et ben Mathilde, notamment en se rapprochant du fils, elle va comprendre en fait que voilà, il y a des liens avec ce qui s'est passé à Junas, il y a des liens avec son père. Et voilà, elle va dénouer la vérité. Et la vérité va être complètement surprenante et elle va quand même permettre à ce roman d'avoir une fin heureuse, bien que avec des points sombres, hein, parce que voilà, le mensonge, en fait, elle est déçue, Mathilde, que son grand-père lui ait menti, que son grand-père ait fait du mal à son propre fils, c'est-à-dire au père de Mathilde. Mais malgré tout, il y a une fin heureuse, même si c'est une fin qui se fait dans la vengeance, qui se fait voilà, avec des points qui sont très durs à encaisser pour Mathilde, mais c'est quand même une fin qui, voilà, qui a un dénouement très heureux, très très heureux.
Oui, alors bon, ce rapprochement avec le fils, la famille Douglas, puisqu'elle essaye de relancer en fait cette entreprise, hein, donc en se rapprochant du fils, peut-être qu'il va y avoir des relations qui lui permettront de relancer justement son entreprise.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est en comprenant la réussite des eaux Douglas, enfin des eaux claires, hein, de la famille Douglas, qu'elle va comprendre en fait effectivement ce qui s'est passé à Junas le 15 juin 1955, et pourquoi son père est parti, et voilà. Si j'en dis plus, je dévoile tout.
Oui, non, mais on ne va pas en dire plus. Alors, c'est vrai que je crois qu'on en avait parlé dans d'autres livres. Avant, tu avais des fins un peu tristounettes, mais maintenant, tu essayes d'avoir toujours des fins heureuses.
Ouais, parce que je suis une grande lectrice et je me rends compte que moi c'est très simple, un bouquin il faut qu'il m'accroche dès les 3 premières pages, sinon je le pose. Donc j'essaie dans mon écriture de faire ça aussi. Mais je me rends compte aussi que quand je lis un roman qui me plaît beaucoup, je suis mieux quand je le referme s'il y a quand même une fin qui est positive, que si c'est vraiment quand même une fin effectivement sans un dernier rebondissement qui laisse une lueur d'espoir ou qui laisse voilà une fin heureuse. Donc maintenant j'essaie quand même, parce qu'il y a des passages qui sont durs, hein, dans les histoires de famille, il y a toujours des secrets, des pages très sombres, mais je finis sur une note positive et maintenant sur des fins heureuses, parce que on est mieux de refermer un bouquin quand même quand on est soulagé. On est soulagé que les héroïnes, que les personnages principaux auxquels on s'attache, hein, dans la lecture, eh bien finalement s'en tirent bien et finissent heureux, quoi. Donc là, oui, maintenant je m'attache à ça, c'est-à-dire que j'ai bâti des bouquins qui sont accrocheurs dès le départ, une intrigue, un secret familial, souvent un ou deux rebondissements pour perdre un peu mes lecteurs, mais une fin heureuse, ouais.
Alors c'est souvent ce que disent les éditeurs, c'est que quand ils reçoivent un manuscrit, ils disent en général on lit les 10 premières pages et on sait si le livre va être bon.
Oui, tout à fait, hein. Il faut dire que vu le nombre de manuscrits qu'ils reçoivent, je sais qu'auprès de la Cité, mon éditrice, c'est quelque chose qui est impressionnant. Donc ils ont déjà des lecteurs, hein, qui sont là pour travailler. Et en fait, c'est très très clair sur les 3-4 premiers chapitres. On voit tout de suite si l'écriture déjà tient la route. Et ensuite, on voit tout de suite si ça va être languissant ou si ça va être prenant et palpitant dès le départ dans la forme de l'écriture et puis dans l'intrigue qui est posée, quoi. Et c'est vrai que moi, je lis beaucoup, beaucoup de bouquins et si dans les 10 premières pages, je m'ennuie, c'est fini, quoi.
D'accord. Alors bon, dans cette histoire, bon, on parle du fils là, de cette société Leclerc. Est-ce qu'on peut peut-être supposer qu'il y aura une histoire plus intime entre le fils et Mathilde?
Bien sûr, hein, mais ça, c'est pas un secret aussi. Hein. Dans un roman, il faut qu'il y ait beaucoup d'écrire les relations entre les personnages principaux et tout. Donc moi, je m'attache beaucoup à l'amour parental, au filial. Norbert, il adore Mathilde, sa petite fille, hein, mais vraiment, il l'adore. Et puis, bien sûr, il y a une histoire passionnelle hein, qui va naître entre... et c'est assez paradoxal parce que, en fait, le fils Douglas, c'est celui qui est en train de couler les os fabriqués par Mathilde parce qu'il est meilleur, hein, voilà. Mais malgré tout, ces deux jeunes personnes vont devenir passionnément amoureux l'un de l'autre, quoi. Parce qu'il faut aussi dans un roman mettre de la passion, mettre du sentiment, expliquer les liens du cœur, ça aussi c'est très important quoi. Et pour moi dans un roman il faut forcément qu'il y ait une histoire d'amour et il faut forcément aussi qu'il y ait une description des sentiments qui lient les parents aux enfants ou les enfants aux parents, aux grands-parents, tout ça c'est très important aussi. Le sentiment, les sentiments, le travail des sentiments. Et pour moi, dans un roman, il faut qu'il y ait une histoire d'amour. Ouais. Et dans celui-là, il y en a deux, en l'occurrence.
Ah bon.
Deux et passionnel.
Alors donc, aujourd'hui, on parle du livre de Florence Roche, son dernier livre, Les Rescapés de Junas, aux presses de la Cité. Alors, on voit quand même que c'est un peu compliqué, comme toutes les histoires comme ça, hein, en général. Les histoires de famille en plus, donc il va y avoir ce rapprochement avec le fils de l'entreprise Les Eaux Claires, le grand-père... qui adore sa petite fille, mais qui lui ne révèle pas non plus cette histoire de famille, quoi.
Il peut pas parce qu'il a peur de la perdre.
Ah d'accord, voilà.
C'est ça en fait, c'est-à-dire que voilà, si elle connaît la vérité, forcément elle va lui en vouloir, quoi. Et d'ailleurs ça va être le cas à la fin, mais malgré tout. Il y aura le pardon de Mathilde parce que justement elle aime aussi ce grand-père qui l'a élevé, qui a fait d'elle une grande chimiste. Donc elle va comprendre pourquoi il lui a menti, pour la protéger, pour protéger leur relation de grand-père et de petite fille. Et ça finit quand même dans le pardon, mais c'est vrai que voilà, il lui a caché une vérité bien bien sombre. Qu'elle pardonne malgré tout parce que à la fin du roman elle est heureuse et qu'elle peut pas laisser son grand-père dans la tristesse absolue de l'avoir partir. Donc en fait elle garde son grand-père auprès d'elle malgré tout, malgré l'erreur qu'il a faite et le secret qu'il ne lui a jamais révélé.
Oui, alors bon, ben c'est vrai que bon, ce village qui disparaît complètement, c'est un petit peu stupéfiant quand même. Alors il y a l'histoire d'eau dedans, c'est le cas de le dire, mais bon, il faut qu'il s'en passe quelque chose, parce que même de l'eau comme ça, qui vient d'une source ou pas, pour empoisonner tout le monde, ça paraît quand même bizarre.
Disons que, en fait, le thème de l'eau dans ce roman... il est assez récurrent parce que bon, Mathilde et son grand-père sont des fabricants d'eau. La famille Douglas qui arrive, qui les concurrence et tout, fabrique des eaux. Et le village de Junas a été empoisonné par l'eau. Donc forcément, il y a un moment où Mathilde va se dire son grand-père et puis ses ancêtres, ils étaient capables, ils ont fait plusieurs expériences avec leurs eaux, ils ont fait des eaux minérales, ils ont fait des sirops, ils ont fait des alcools, et puis ils ont réussi aussi à fabriquer des eaux empoisonnées pour les nuisibles, pour les rats, les trucs comme ça. Donc il y a un moment où Mathilde, elle se dit, mais punaise, est-ce que ça serait pas son grand-père ou en tout cas un jacquard qui aurait été capable d'empoisonner la source, parce que en tant que chimiste elle sait qu'on peut fabriquer des eaux empoisonnées et que ça peut être très nocif, et que sur une source comme ça qui alimente tout un village, c'est possible ce type d'empoisonnement. Et elle a le doute que ce soit son grand-père, et c'est là qu'elle se plante par contre complètement et qu'elle va découvrir une histoire qui remonte à la Seconde Guerre mondiale et qui fait que cet empoisonnement, effectivement, il a une origine humaine. Il vient d'un poison toxique, mais qui n'a rien à voir, enfin disons que ce massacre de tout le village n'a absolument rien à voir par contre avec le grand-père de Mathilde, ce dont elle doute pendant tout le bouquin, et à la fin on se rend compte qu'elle a complètement fait fausse route.
Alors ce qui est bizarre, oui, ce qui est bizarre quand même, c'est qu'à l'époque, bon, il y a toutes ces disparitions et qu'on ne s'intéresse pas plus de plus près à cette source.
Disons qu'en 1955, les gens sont encore, surtout en Haute-Ardèche, très, comment dire, très superstitieux, ils ont très peur, et quand ils découvrent ce village comme ça, ben, avec des gens qui sont morts, visiblement empoisonnés et tout, voilà, c'est vraiment, il n'y a pas d'enquête, on boucle très vite, tout le monde a peur d'être contaminé, on fait une fosse, le préfet décrète d'arrêter l'enquête. Alors qu'il y a quand même des éléments qui ont été vus par une aubergiste qui tient un établissement sur la route qui menait à Genasse, parce qu'après la route, eh ben, elle est fermée, hein, Genasse, on oublie. Mais cette aubergiste, elle a quand même vu les choses. Elle a vu passer un homme, elle a vu passer des chercheurs, et elle a dit. Elle l'a dit en 1955, elle a dit à la police, elle a dit en préfecture, et on a dit oui, non, mais bon, on clôt le dossier, on enterre tous ces gens, on n'en parle plus. C'est une malédiction, voilà, c'est un village qui était maudit, et voilà. Et ça, Mathilde, elle n'arrive pas à accepter et à comprendre. Mais dans les mentalités en 1955, les gens, ils sont 10 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils sont encore superstitieux et on boucle l'affaire parce que on pousse pas les choses très loin parce qu'on croit tout simplement qu'effectivement il y a une fièvre. Une bactérie qui a tué tout le monde, et hop, on enterre l'affaire. Sauf que Mathilde, elle, avec sa conscience scientifique et sa formation, elle dit ben non, il y a une autre explication.
Oui, c'est vrai. Alors, un peu ce que tu dis, c'est que le plateau ardéchois, bon, on parle des protestants, on sait que c'était un monde à l'époque très secret, hein, qui gardait beaucoup sur eux tout ce qui se passait, donc ça explique un peu plus, peut-être qu'on clôt l'histoire très rapidement.
C'est ça, oui. Et puis Genasse, c'était un village, en fait, qui, enfin, comme je l'explique dans le bouquin, hein, mais c'est, ça pourrait correspondre à n'importe quel petit hameau de Haute-Ardèche. En fait, c'était, je l'explique comme ça, hein, c'est un village qui a été formé par une communauté de l'époque des Camisards, c'est-à-dire une communauté protestante qui s'est établie en Haute-Ardèche dans un bled complètement paumé qu'ils ont fondé pour être tranquille et échapper à l'intolérance religieuse. Donc c'est un village très replié depuis des siècles, en fait, hein, et qui vit comme ça, comme un peu, les gens vivent un peu dans ce village de Genasse en reclus, en quelque sorte, quoi. C'est une grande famille, quoi. C'est un hameau de 300-400 âmes, mais c'est toujours, en fait, les mêmes familles qui sont très très dans un hameau très très reculé, qui autrefois leur a servi de refuge, en fait.
D'accord, donc on comprend ça. Alors Florence Roche, les rescapés de Genasse, les presses de la cité, donc on a dit quand même pas mal de choses maintenant pour savoir la totalité de l'histoire. Bien sûr, il faut lire le livre.
Voilà, mais là, si j'en révèle plus...
Non, on n'est pas là pour ça. Hein. Non, mais juste c'est pour présenter un peu ce livre, voir comment ça se passe un peu, puis après, bah, bien sûr, il y aura ce dénouement qui sera... lorsque les gens auront lu le livre et qu'ils vont être franchement surpris.
Ouais, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai les premières remontées, quoi, parce qu'il est sorti il y a un mois. C'est vrai que mes lectrices sur mon site ou sur mon Facebook, elles me disent qu'elles sont complètement, ou mes lecteurs, complètement tombées à la renverse, quoi, parce qu'elles ne s'attendaient absolument pas à ça et elles ont été vraiment prises par l'intrigue. Pour le moment, c'est vrai que j'ai des bons retours sur ce bouquin. Et moi, je me rends compte que parmi tous les bouquins que j'ai faits, donc il y a une évolution dans mon écriture. Hein. Je suis partie vraiment de romans très ruraux, très terroirs, très régionaux. Et là, j'arrive maintenant un petit peu à faire des bouquins où je travaille beaucoup plus sur l'intrigue, en fait. Et ça me fait gagner des lecteurs en plus, parce que ça tient plus en haleine, en quelque sorte, quoi. C'est encore plus accrocheur ça reste quand même du régionalisme dans le sens où j'ai un terroir, hein. Bon, là c'est Junaz, c'est la Haute-Ardèche et tout, mais l'histoire pourrait se dérouler n'importe où, à la limite, hein. Je suis plus maintenant en fait dans la construction d'une intrigue et de personnages avec des personnalités différentes, et puis donc sur les liens sentimentaux. J'ai vraiment évolué là-dessus et ça plaît, c'est ce qui plaît actuellement en fait à la génération des quarantenaires, des cinquantenaires. Voilà, c'est des romans qui sont pas seulement des romans qui racontent une histoire, mais qui sont aussi des romans qui tiennent en haleine, quoi.
Alors toi, tu es professeur d'histoire. D'habitude, il y a un peu plus d'histoire dans ce livre. Il y en a un peu moins, peut-être.
Oui, c'est vrai. Ouais. Celui-ci, j'ai un peu travaillé sur les eaux minérales, l'histoire des eaux minérales des premières eaux, quoi, qui effectivement sont auvergnates. Hein, c'est les eaux de Bichy, c'est voilà. Mais oui, c'est vrai que je parle un petit peu aussi de la fuite des protestants pour expliquer l'existence du hameau, mais... Oui, celui-ci, il est beaucoup moins ancré sur une thématique historique ou sur un thème particulier comme les parfums, quand j'avais fait les parfums d'Iris, sur la vie paysanne qui a évolué au XXe siècle quand j'avais écrit Philomène et les siens chez Kalman Levy. C'est vrai que là, on est vraiment plutôt sur un bouquin intrigue, quoi, hein, lourd secret familial, quoi, l'histoire d'une famille, d'un hameau, et voilà. C'est un peu moins, oui, c'est vrai. C'est un peu moins poussé au niveau de la recherche historique. Là, j'ai été vraiment prise par cette intrigue, par cette histoire.
Alors, bon, c'est la dernière question que je pose traditionnellement, parce que je sais que les auteurs en ont toujours un autre sous le coude. Je pense que c'est ton cas aussi.
Oui, voilà. Je vais profiter de ces vacances de Toussaint pour finir le bébé. Il n'est pas encore validé, il n'est pas encore lu par mon éditrice, donc mais bon, a priori, voilà, c'est un bouquin qui devrait sans doute s'appeler La femme aux deux visages, enfin je ne sais pas avoir, mais qui traitera cette fois-ci de la jumélité. Je vais essayer de bâtir une intrigue autour de ça, de la jumélité. Et bien sûr, là ce sera un roman qui sera sur une double époque. C'est-à-dire la génération d'après-guerre qui doit, pour mieux comprendre le passé de la famille, faire des liens avec ce qu'ils ont fait pendant l'occupation.
Ok, bah écoute, Florence, merci d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Je pense que, bien sûr, tous tes bouquins, maintenant, tu as un fidèle auditoire, hein, qui lectrice, lecteur, tu t'es fait une clientèle, on va dire, on va résumer comme ça. Mais bon, ce nouveau roman, hein, Les Rescapés de Junaz aux Presses de la Cité. Voilà, il est disponible, comme on dit, dans toutes les bonnes librairies.
Tout à fait.
Merci Florence, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir Florence, merci.
Bonne journée à tout le monde, au revoir.
Au revoir. Voilà, nous étions avec Florence Roche pour son livre Les Rescapés de Junaz aux Presses de la Cité. On va écouter, bien, pour un peu illustrer ce livre, on va retrouver Jacques Brel, bien sûr, puisque vous l'aurez déjà deviné. Qu'est-ce que chantait Jacques Brel à l'époque? Eh bien, il chantait ça. Mathilde est revenue.
Ma mère, voici le temps venu d'aller prier pour mon salut. Mathilde est revenue. Bounia, tu peux garder ton vin. Ce soir, je boirai mon chagrin. Mathilde est revenue. Toi la servante, toi la Maria, faudrait peut-être mieux changer nos draps. Mathilde est revenue. Mes amis, ne me laissez pas. Ce soir, je repars au combat, maudite Mathilde, puisque je suis là. Mon cœur, ne t'emballe pas, fais comme si tu ne savais pas que la Mathilde est revenue. Mon cœur, arrête de répéter qu'elle est plus belle qu'avant l'été, la Mathilde qui est revenue. Mon cœur, arrête de brinque-baller, souviens-toi qu'elle t'a déchiré, la Mathilde qui est revenue. Mes amis, ne me laissez pas.
connaissez pas, non. Dites-moi, dites-moi qu'il ne faut pas, maudite Mathilde, puisque te voilà. Et vous, mes mains, restez tranquille, c'est un chien qui nous revient de la ville. Mathilde est revenue. Et vous, mes mains, ne frappez pas, tout ça ne vous regarde pas. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne tremblez plus, souvenez-vous quand je vous pleurais dessus. Mathilde est revenue. Vous, mes mains, ne vous ouvrez pas, vous, mes bras, ne vous tendez pas. Sacrée Mathilde, puisque te voilà. Jacques retourne en enfer, Mathilde m'est revenue. Ounia, apporte-nous du vin, celui des noces et des festins. Mathilde m'est revenue. Toi la servante, toi la Maria, va tendre mon grand lit de drap. Mathilde m'est revenue. Ami, ne comptez plus sur moi, je crache au ciel encore une fois. Ma belle Mathilde, puisque te voilà, te voilà.
Voilà, je vous rappelle que cette émission est rediffusée le lundi à 22h, le mardi à 19h et le mercredi à 12h30. Cet invité du jeudi est
Look at you, Louis Miller. Disappear, dear. After drawing out his cash, and Mac Heath spends like a sailor. Did our boy do?
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets. Dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du hameau pour l'amener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Petits bateaux emportés par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeure esselé. Le ruisselet au large s'en est allé.